Voilà, on va passer à la prédication. J'enlève pour que vous puissiez m'entendre, car déjà j'ai un petit accent. Hein. Alors vous êtes des Français, alors il faut que je prononce mieux. Alors ce matin, je vous propose de nous arrêter sur un texte biblique qui est concret et je pense qu'il est très utile pour nous, pour chacun de nous. Et justement, en le relisant, en préparant le message, j'ai été interpellé par sa profondeur et l'actualité de ce texte. Car la parole de Dieu, je le dis toujours, faut pas regarder si l'Ancien Testament, ça concerne les Juifs, il y a 2000 ans, 200, je sais pas combien d'années, hein, mais tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Il est valable pour eux, il est valable pour nous, et il sera valable pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur. Donc, c'est un livre d'actualité. Mais avant de faire la lecture, on va regarder les contextes, car lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il ne faut pas s'arrêter à lire le verset ou le paragraphe, mais il faut surtout regarder les contextes dans lequel cette chose a été dite. Donc, les contextes, ici, on se trouve en 520 avant Jésus-Christ, comme on en a parlé un peu ce matin, les contextes, et on voit que les premiers exilés de la déportation, ils rentrent dans le pays d'Israël. On en a parlé ce matin, les deux tribus de Juda, le Seigneur, il les ramène de Babylone. Et pourquoi il les ramène? Il les ramène parce qu'il y a les plans de Dieu, le Messie, il doit venir, il doit naître dans le pays d'Israël et pas en Babylone. Voilà pourquoi il nous raconte tout ça. Et vous savez, les livres qui racontent l'histoire du retour de la déportation, c'est les trois derniers livres. C'est le livre d'Agée, le livre de Zacharie, le livre de Malachie, et il y a aussi le livre d'Esdras et de Néhémie. Tous ces livres-là, ils nous parlent du retour du peuple d'Israël dans leur pays que Dieu il leur a donné. Mais ce pays, il se trouve dans une désolation, car, comme je l'ai dit ce matin, Nabucodonosor, il a complètement détruit soit temple, soit Jérusalem. Donc, ils sont revenus pour qu'ils puissent reconstruire tout ça, parce que c'est le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu, il a besoin d'avoir cet endroit pour donner gloire à Dieu. Et vous savez, et c'est dans le livre d'Agée qu'on va aller, mais ce petit livre d'Agée est toujours d'actualité, comme je vous ai dit. Parce que son souci, le souci d'Agée, c'est un seul, c'est de remettre les choses à sa place, en respectant les priorités. En respectant les priorités. Hein? La théologie de cet homme, la doctrine, la croyance de cet homme d'Agée, prophète, c'est quoi? Il s'articule en premier lieu autour de deux principes. La priorité qu'il faut donner à Dieu. Il y a ce fameux verset dans le Nouveau. Hein? Cherchez d'abord les royaumes des dieux. Il faut avoir des priorités dans notre propre vie. Mais avant de voir le livre d'Agée, nous allons regarder dans le livre d'Esdras, parce que Esdras, il a fait partie de celui qui est parti les premiers avec de la tribu de Juda. Ils sont rentrés pour reconstruire le temple et reconstruire Jérusalem. Voilà pourquoi on commence par le livre d'Esdras pour voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait une fois qu'ils ont mis les pieds là-dedans. Voilà pourquoi c'est quelque chose, Esdras. Regardez Esdras, chapitre 3. Nous allons, Nous allons voir les premiers versets, il nous parle justement de cela. 3:1, il dit, le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Donc ils sont arrivés dans le pays d'Israël. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. Et ça, un enseignement pour nous tous. L'Église, il doit se rassembler aussi comme un seul homme. On ne peut pas être divisé si on a dans notre cœur le désir de reconstruire la communion avec notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi? Parce que pour faire du bon travail, il faut être uni. Et pour faire du bon travail, il faut être uni. Et il nous est dit, le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Il faut être uni avec les autres croyants pour que nous puissions avancer. On ne peut pas avancer tout seul. On ne peut pas avancer en seul groupe. Il faut qu'on soit unis et pas différemment. Et je dis cela comme un avertissement, à toujours veiller à cette unité dans notre Église et dans toutes les Églises. Une unité de quoi? L'unité de l'Esprit. Tous conduits par le même Esprit. Et quel est cet Esprit? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Et dans la même foi, dans la même croyance. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un, il désire être membre de cette Église, on lui donne notre profession de foi. En quoi nous croyons? Peut-être qu'ici, la personne, elle se trouve bien, ah, je suis bien là, mais est-elle d'accord avec ce que nous, on croit? Parce que si elle n'est pas d'accord sur des choses que nous, l'Église, il croit, alors là, c'est pas la peine qu'il demande à être membre. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Avant de dire, je veux devenir membre, il faut voir ce qu'on prêche ici, ce qu'on croit. C'est qu'on croit. Il y a des choses qui d'autres églises, ils prêchent, ils enseignent, dans lesquelles nous, on ne croit pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il n'en parle pas, il ne le dit pas. Voilà pourquoi, comme l'a dit le frère tout à l'heure, on est des fondamentalistes. Pourquoi? Parce que nous avons une seule direction et c'est la parole de Dieu. Et en plus, nous croyons en tant que fondamentalistes à la différence entre juifs et Israël et Église. Et en plus, nous prenons la Bible littéralement. Voilà pourquoi c'est essentiel. Dans toutes les églises dans lesquelles on voit, il faut savoir ce qu'on prêche. Est-ce que ce qu'il prêche, je suis d'accord? Si je suis d'accord, c'est bien. Si je suis pas d'accord, je m'en vais, parce que si je suis à votre place et j'entends quelqu'un qui prêche quelque chose dans lequel je ne crois pas, c'est pas la peine qu'il soit ici. Les Bérénéens, vous en souvenez ce qu'ils faisaient? On leur prêchait la parole et ils faisaient quoi? Ils regardaient dans les Écritures. Ils disaient, oui, voilà, ce que tu nous dis, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a dit. Ah non, ce que tu nous dis, c'est pas vrai. Tu es menteur. Dieu, il ne dit pas ça. Je ne crois pas ça et je m'en vais. On ne peut pas être dans un endroit où on n'est pas uni par l'esprit et par la foi. Et ici, ils étaient tous là, d'ensemble, un seul homme, prêt à travailler pour le Seigneur. Car pour travailler pour le Seigneur, il faut être unis dans la même direction, avec une seule et unique croyance, une seule et unique foi, une seule et unique esprit. Et on continue au chapitre 3 toujours d'Esdras. Regardez ce qu'ils nous... Je vous ai dit qu'ils ont commencé à travailler Ils ont commencé à travailler et ils ont commencé à fonder à commencer le travail qu'ils étaient venus faire. Et ça, on le voit au verset, dans ce chapitre 3. Mais on peut se demander dans quel esprit ils travaillaient. Ils étaient ensemble. Regardez chapitre 3, verset 11 à 13. 3, 11 à 13. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Ils étaient tous ensemble et ils faisaient quoi? Et comment ils travaillaient? Dans la joie. Ils chantaient à l'honneur de Dieu. Ils le remerciaient. Ils disaient, tu es bon, Seigneur, de nous avoir fait revenir là. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils construisaient les fondements du temple de l'Éternel. Et c'est ça que nous devons faire exactement la même chose, avec joie. Nous devons être ensemble avec joie. Nous devons travailler avec joie. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas ni pour les pasteurs, ni pour les conseils, ni pour... Nous le faisons pour Dieu. Pour Dieu. Et il n'y a que lui qui peut agréer le travail qu'on fait. C'est pas les membres de l'église, hein, mais celui-là, il fait comme il prêche, comme il enseigne. C'est Dieu qui juge les gens. Paul, il avait dit, je m'en fous si des jugements de vous-même. C'est ce qui m'intéresse à moi, c'est les jugements des dieux. Et c'est Dieu qui donne les vouloir et les faire. C'est Dieu qui nous donne la volonté. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, peut-être que les gens, ils vont estimer que c'est pas donné avec une force, mais le peu que nous faisons pour Dieu c'est grand. C'est ça qui compte. Et ils étaient ensemble, ils étaient dans la joie, ils chantaient, ils remerciaient Dieu et ils commençaient ce travail. Bien sûr, les choses, il faut les faire dans cet état-là, car on ne peut pas travailler avec un ressentiment. Il faut être unis. Comme l'a dit les frères tout à l'heure, la communion fraternelle. Lorsque je regarde un frère, une sœur, je ne vois pas Roland, je ne vois pas Marlène, mais je vois Jésus-Christ. Avant de dire quoi que ce soit contre un frère, une sœur, il faut réfléchir. Et se dire, qui c'est que je dis des choses contre qui? Mais contre Jésus. Il y en a beaucoup qui, à l'extérieur, ils critiquent l'Église dans laquelle ils sont. Mais est-ce qu'ils critiquent l'Église? Ils critiquent Jésus-Christ. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est la famille de Dieu. Si seulement nous ayons constamment cette pensée au plus profond de nous-mêmes, nous ferions beaucoup plus d'attention à ces choses-là. Et encore ici, il nous est dit, ils étaient dans la joie. Ils ont commencé à travailler dans la joie, en remerciant Dieu. Mais vous savez, à cette époque, comme aujourd'hui, on peut travailler, chanter, louer, mais à un certain moment, lorsque les choses ne vont pas, regardez chapitre 4, versets 1 à 5. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Ezar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple d'Israël. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. influencé pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Voilà ici, il travaillait dans la joie, dans l'euphorie, mais voilà, il y a les ennemis. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. On peut être dans la joie, travailler pour le Seigneur, mais l'ennemi est là. Le Nouveau Testament, il nous dit qu'il rôde comme un lion autour de nous pour voir qui c'est qui peut dévorer. Pour comment empêcher l'œuvre de Dieu? Je vais évangéliser, je vais témoigner, paf, il arrive quelque chose et il nous empêche de faire ça. Ou sinon, des fois, on ne voit pas de résultats et qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. Et lorsqu'on s'en décourage, qu'est-ce qu'il arrive? On laisse tomber l'œuvre du Seigneur. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Hein? Les décourageants. Le peuple s'est laissé décourager par les adversaires de Judas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le travail. Ils ont arrêté le travail. Ils ont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Mais le Seigneur, il nous dit quelque chose de plus important. Un peu, le frère, il nous a parlé tout à l'heure. Malgré qu'il y ait tous ces obstacles, tous ces ennemis autour de nous, nous devons persévérer. Persévérer. Malgré tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous a dit de le faire. Et il nous a dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas nous arrêter. Savoir que le Seigneur est là avec nous. Bien sûr, il y a des découragements. Croyez-vous que je ne suis pas découragé le mercredi lorsqu'il y a des études bibliques, hein, qu'on est plus de 100, il y a 4 ou 5 frères et sœurs qui sont là. Mais je ne travaille pas pour les frères et sœurs, je travaille pour le Seigneur. J'ai les yeux fixés sur le Seigneur, comme il a dit le frère. Car je sais que c'est le Seigneur qui est la totalité. Comme il est dit, hein, zéro c'est rien, mais vous mettez un devant les zéros, ça fait 10. Et ce un, c'est le Seigneur. Il faut regarder le Seigneur et se dire que nous devons faire le travail, pas regarder autour de nous ce qui se passe ailleurs. Nous sommes là pour travailler pour le Seigneur. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Si les autres ils ne répondent pas, c'est pas notre problème. Hein? Ézéchiel, il nous l'a dit. Il dit, Seigneur, il lui a dit, je t'établis comme sentinelle. Annonce que l'ennemi, il est là. Toi, annonce. S'il ne t'écoute pas, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ton devoir. Ton devoir, c'est d'annoncer. Les découragements, c'est ça. On a eu un exemple dans le Nouveau Testament des découragements. Pierre, et pourtant Pierre, il est reconnu comme le plus grand apôtre, hein? Et pourtant lui aussi. Ah, le fils de l'homme, il dit le Seigneur, il va être pris, et il va être amené à la mort. Et Pierre, ah, que cela ne t'arrive pas, Seigneur. Si les autres s'en vont, moi je reste là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé. 3 fois il a régné le Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'il a tenu debout, Pierre? C'est la prière du Seigneur. Il dit, Satan, il t'a réclamé. Il a voulu t'écraser. Mais j'ai prié pour toi. Voilà l'importance de la prière. Et en plus, nous avons une promesse merveilleuse que le Seigneur nous fait dans 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui ne soit pas humaine. Et dans l'épreuve, je suis là. Le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il a dit, tout m'est soumis, le ciel, la terre, j'ai tout pouvoir, n'ayez pas de crainte. Avancer, mais ils se sont découragés. Et c'est là que le contexte, il est là, et c'est là qu'il intervient, âgé. C'est à partir de là qu'âgé, il rentre. Et ouvrez, mettez vos Bibles dans âgé, chapitre 2. Si je le trouve... Agée 2, lisons le verset 2 à 11. Parle, voilà, ça c'est une prophétie du Seigneur qui parle à Agée et il la reporte. Le peuple, il était dans le découragement et tout ça, ils avaient arrêté leur travail. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, il dit à Zorobabel, fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Pourquoi? Car je suis avec vous. Je suis avec vous. Et si vous regardez aussi de chapitre 1, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple, parce qu'ils étaient dans un désespoir, ils étaient découragés, les travaux, ils étaient arrêtés. Et il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, les prophètes, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai fortifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les moûts et sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Qu'est-ce qui s'était passé là? Ils étaient découragés, ils ont arrêté de construire les temples, et ils ont fait quoi? Ils se sont occupés de leur propre maison, de leurs propres affaires. Et c'est là qu'Agée revient. Et il leur dit, de la part de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes rentrés pour construire le temple, la maison de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez de vos maisons. Attention, Dieu il ne dit pas qu'il ne faut pas s'occuper de leur propre maison, hein. Mais encore une fois, Agée, je vous ai dit, le titre de ce message, c'est « Les priorités ». On est rentré, vous êtes rentré pour construire le temple, pour construire la fondation et tout ça, et maintenant vous vous occupez, vous arrêtez tout le travail, et vous vous occupez de vos maisons, vous essayez de les faire belles et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Tout votre travail sera vain, parce que j'ai soufflé dessus. Vous vous occupez de votre maison. Et il dit, pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun à mettre en place vos propres maisons. Les priorités. Dans notre vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Hein? Leur abandon, hein, de la construction des temples, leur négligence et leur égoïsme. Oui, parce que au lieu de s'occuper de la maison de Dieu, ils se sont occupés d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'il a engendré? Cela, le Seigneur, il nous le dit. L'Éternel a suscité les difficultés économiques dans tout le pays. Tu ne veux pas faire ce que moi je te dis, les difficultés arrivent. C'est ça. Hein? Et dans les versets 5 et 7b, il y a cette expression dans laquelle qui, c'est pour eux, mais c'est aussi pour nous, qui des fois, au lieu de nous occuper des affaires de Dieu, nous nous occupons de nous-mêmes et nous occupons des choses qui ne concernent pas Dieu. Et il nous dit, réfléchissez, considérez vos voies. C'est une traduction, il dit, réfléchissez à votre conduite, réfléchissez à ce qui vous arrive. Et ça, c'est dans notre propre vie, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on est dans des difficultés monstres, le Seigneur nous dit, réfléchis, pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? On dit, oui, mais ça dépend de ça et ça. Mais regarde au plus profond de toi-même. Est-ce que c'est parce que tu as mal agi? Parce que tu t'es pas tourné vers les bonnes personnes? Aujourd'hui, lorsque on se sent mal, la première chose qu'on fait, c'est un docteur. Non, la première chose qu'il faut faire, c'est le Seigneur. Car c'est lui qui dirige toutes choses. Voilà pourquoi Agé, il dit à ces gens, vous vous occupez de votre maison et vous ne travaillez pas à la maison du Seigneur. Réfléchissez, car ce que vous faites, résultat, le Seigneur, il vous amène des difficultés. Et il nous a dit, hein, sur les blés, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mousses, sur l'huile. Et des fois, le Seigneur, il est comme ça. Lorsqu'on n'est pas dans sa volonté, il nous envoie des difficultés. Et après, on s'est dit, mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça? C'est que quelque chose ne va pas dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Pas seulement sur le pays, mais sur nos propres vies, la sécheresse. Il n'y a plus rien qui va. Le travail commence à manquer. On n'a plus d'argent. On n'a plus rien. Alors, il faut se poser les questions. Et pas écouter ceux qui vous disent, oui, les chrétiens, ils sont des enfants de Dieu, ils doivent vivre comme des riches. Hein? C'est l'évangile de la prospérité qui va beaucoup de mots dans ces moments. Mais Dieu, il nous a jamais dit que nous serons riches. Le Seigneur, il nous a dit que votre Père est là. Il sait de quoi vous avez besoin. Demandez, il vous donnera. Mais d'abord, il nous dit, réfléchissez. Pourquoi il nous dit ça? Pour que nous puissions mettre les priorités dans notre propre vie. Dans notre propre vie. Et on peut dire en ce que le Seigneur il dit ici, hein, c'est quelles sont nos priorités en tant que chrétien, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, dans notre travail, dans cette vie qu'on est en train de mener. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je recherche premièrement? C'est ça qu'Agé est en train de dire à ses peuples. Hein? Quelles sont nos priorités dans notre vie? Qu'est-ce qu'il est important de faire ou de réaliser dans notre vie? Est-ce qu'il est important que nous montions dans l'échelle de la société? Ou est-ce qu'il est important que notre Église, nos frères et sœurs, les royaumes de Dieu, ils puissent avancer encore plus? Le Seigneur, il a dit, ne vous occupez pas de ce que vous allez manger ou boire. Je suis là. Il dit les oiseaux. Qui c'est qui les donne à manger, les oiseaux? Mais c'est le Seigneur. Les fleurs. Hein? Les fleurs, ils sont mieux habillés que Salomon. Pourquoi? Parce que Dieu, il est là. Mettons nos priorités entre les mains de Dieu. Et vous savez, et vous saurez, et nous saurons qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous. Mais si nous le mettons à la première place, attention. D'ailleurs, le Seigneur, il le dit, hein, même à nos familles. Hein. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il voulait dire quoi? Il voulait pas dire de ne pas les aimer. Non, mais il a dit, mettez Dieu dans votre propre vie à la première place. Car c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Hein? Il faut distinguer l'urgent de l'important. Comme je vous ai dit, l'urgent lorsqu'on est malade. Il faut pas tout de suite se tourner vers les docteurs, mais il faut se tourner vers Dieu. C'est ça l'important. Car c'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. Hein? Dans toutes nos différentes, à deux reprises, le Seigneur, dans le Nouveau Testament, il nous dit, rachetez les temps. Rachetez les temps. Si jusqu'aujourd'hui, notre vie, ça a été une vie que nous nous sommes dédiés à nous-mêmes, nous avons pensé à notre petite vie, le Seigneur, il nous dit, je te donne encore le temps de pouvoir diriger tes priorités vers moi. Car c'est ça qui compte. Car le Seigneur, lorsque nous serons devant lui, il ne nous dira pas, alors Aldo, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Ah, tu as eu un bon compte en banque, tu as eu de maison. Non, il nous dira, qu'est-ce que tu as fait du message que je t'ai donné à propager? Les choses matérielles, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le spirituel dans notre propre vie. C'est exactement ce qu'il leur dit à Jé. Réfléchissez. Vous avez tout arrêté. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? C'est parce que vous avez abandonné les priorités. Voilà pourquoi c'est un avertissement pour nous. Un avertissement. Et il continue à leur dire, reprenez le travail. Parce que c'est pour cela que je vous ai fait rentrer. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Et il dit à Zorobabel, il dit, fortifie-toi, Zorobabel, c'est le chef politique. Et il y a Josué, c'est le chef religieux. Il dit, fortifie-toi, et pas seulement vous deux, mais aussi au peuple, fortifiez-vous. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Regardez au Seigneur. Car c'est lui qui planifie notre passage ici-bas. Si nous lui faisons confiance, il est toujours là. Et si vous regardez au chapitre 1, verset 14, il y a les résultats de cet appel de Agé. Il dit, 1:14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les peuples, le reste du peuple. Ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. Ils sont revenus et ils ont repris l'ouvrage. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit, fortifie-toi. Fortifie-toi, je suis avec toi. Vous savez, hein, la théorie chez les chrétiens, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est la pratique. Un chrétien, il peut dire, oui, ben bon, voilà, je vais au culte, je vais aux réunions de prière, je vais aux études bibliques. Mais la pratique, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous apprenons, nous devons le mettre en pratique. Le Seigneur, il nous dit, c'est pas ceux qui connaissent, mais c'est ceux qui mettent en pratique. C'est ceux qui mettent en pratique. La théorie, c'est bon. Agé, il leur a dit, et ici, ils se sont mis à l'œuvre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il les a parlé. Il les a parlé. Et ça, vous savez, la parole de Dieu n'est pas que de la théorie. Hein. Elle est aussi très pratique et très concrète. Nous sommes des chrétiens et nous devons mettre en œuvre toutes ces choses-là. Voilà pourquoi on peut se poser la question, est-ce que j'écoute toujours la parole de Dieu pour moi? Est-ce que j'obéis au Seigneur? Est-ce que je mets en pratique tout ce que je lis, tout ce que j'entends dans les messages, dans les études bibliques, dans les prières et toutes ces choses-là? Et donc, Résultat de toutes ces choses-là, hein, Agé 2, verset 1 à 9, il nous est dit que Zorobabel et Josué, ils reprirent l'ouvrage. Ils décidèrent de réouvrir les chantiers. C'est pas, même s'il y a des difficultés, non. Nous allons travailler pour le Seigneur, car c'est la priorité. Et ils se sont mis à l'œuvre. Et ils ont repris à travailler. Et il y a des gens, des anciens, qui se souvenaient de l'ancien temple, la beauté du temple. Mais, et ils n'en parlaient aux autres qui travaillaient. Et aussi, ils décourageaient un peu parce qu'ils leur disaient, mais ce temple, il ne va pas être aussi beau que celui qui a construit Salomon. Et Agé, il leur dit, il leur montre que ce temple, on ne va pas lire 1 à 9, hein, mais si vous prenez note, lisez-le, parce que c'est exactement ça. Agé, il leur dit, vous avez connu un temple de Salomon, mais le temple que vous êtes en train de construire, il sera encore plus merveilleux, plus wonderful, comme il a dit le frère, hein, hein. Plus encore merveilleux que celui que vous avez vu. Pourquoi? Parce que dans ce temple, il y aura le Seigneur. Et ils se sont mis et ils ont travaillé et ils ont érigé ce temple. Et la première chose qu'ils ont fait lorsque ils ont construit le temple et Jérusalem, ils ont offert un sacrifice pour le Seigneur. La première chose qu'ils ont construit, pas les murs pour défendre Jérusalem, mais ils ont construit l'Holocauste. L'Holocauste. Pour faire quoi? Pour les sacrifices en l'honneur de l'Éternel. C'est ça la priorité. Rechercher l'Éternel en toutes choses. Et c'est ça que le Seigneur il a envoyé Agé au peuple d'Israël. Mais il nous l'envoie aussi à nous, cette parole aujourd'hui que nous avons lue. Où est-ce qu'elles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités dans notre vie? Ce qui compte aujourd'hui, vous connaissez quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est ça, les plus grands. Parce que les 10 commandements, on peut les connaître. Hein? Mais est-ce qu'on obéit? Et le Seigneur, il dit, je ne cherche pas ni sacrifice, ni don, ni offert, ni dîme. C'est ce que je cherche, c'est l'obéissance. Car Jésus, c'est ce qu'il nous a montré, Jésus. Il a été obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie. Et pour qui? Pour des êtres ignobles comme nous, comme moi, comme vous. Nous ne méritions rien. Et pourtant, Jésus, il a abandonné la gloire. Il est devenu semblable à nous. Il s'est incarné. Et il a donné sa vie pour chacun de nous. Et pourtant, il aurait pu éviter tout ça. Pourquoi il l'a fait? Pour sauver des êtres comme nous. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas les clous qui ont gardé Jésus à la croix. Mais c'est son amour. Lorsqu'il est mort, il pensait à nous. Quelle est sa dernière parole? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Où est-ce qu'elles sont nos priorités? Est-ce qu'ils sont vers le Seigneur ou c'est vers nous-mêmes? Mais en sachant que si ces priorités ils sont tournées vers nous-mêmes, ils seront vaines, car le Seigneur, il va les faire disparaître. Et les seules priorités qui peuvent et qui doivent rester, c'est les priorités que nous mettons sur le Seigneur. Car c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu juste, et c'est un Dieu qui désire nous bénir. Alors, voulez-vous être béni? Mettez vos priorités dans le Seigneur, et nous serons bénis. Amen.